I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Salut Rokaya.
Salut Grace.
Salut les auditorices.
Vous trouverez la suite de Kif Taras et les nouveaux épisodes à écouter sur votre plateforme habituelle de podcast.
Faites simplement une nouvelle recherche avec le titre Kif Taras chez Pseudo Radio et abonnez-vous à ce fil.
Bien sûr, les quatre premières saisons des épisodes de Kif Taras resteront toujours disponibles chez Binge Audio.
Merci pour votre écoute précieuse
et à bientôt.
Produit par Binge Audio.
Bonjour Rokaya.
Bonjour Grace.
Bienvenue dans ce nouvel épisode de Kif Taras, le podcast qui saute à pieds joints dans les questions raciales.
Comme vous savez, ici dans Kif Taras, nous parlons sans complexe d'arabes, d'asiatiques, de roms, de noirs, de blancs, de juifs, de musulmans. En France, on parle de laïcité matin, midi et soir. On vante ce principe comme découlant d'une spécificité occidentale, voire française, désignant la capacité singulière de notre pays à affranchir la sphère publique de la religion pour asseoir les principes de la République. Face à ce principe, l'islam serait perçu soit comme incompatible avec toute forme de sécularisation, soit comme menaçant un consensus culturel. Cette idée est pourtant historiquement construite et fortement ancrée dans l'histoire de l'expansion coloniale française. Comment la sécularisation de notre pays a accompagné la construction d'un mythe? Et quel rôle a joué la racialisation des populations musulmanes colonisées? C'est notre thème du jour.
Pour en parler, nous recevons Mohamed Amer Méziane pour nous partager son expérience et son expertise sur la question. Salut Mohamed.
Salut.
Salut.
Tu es agrégé et docteur en philosophie, actuellement chargé de recherche et enseignant à Columbia University à New York City.
Ouh. Attention, il a fait un détour pour venir nous voir. Merci.
Et merci.
Tu as écrit le livre « Des empires sous la terre, histoire écologique et raciale de la sécularisation » paru récemment aux éditions La Découverte.
Oui, exactement.
On a bien fait notre travail.
Jusqu'ici, tout va bien. Alors, avant de se plonger dans ton livre, on va te faire part de notre petit rituel dans Kif Taras. On demande à nos invités s'ils ou elles se situent sur le plan racial. Par exemple, Grace est perçue comme une femme asiatique et moi comme une femme noire. Et toi, Mohamed, est-ce que tu te situes? Et si oui, comment?
Oula. Alors, est-ce que je me situe? Je me situe d'abord et avant tout comme un homme cis nord-africain. Ça me paraît être la catégorie la moins problématique. En vérité, en fait, je suis amazigh ou kabyle. Mais c'est vrai qu'en France, je suis perçu comme arabe. Mais c'est vrai qu'au pays, ces questions sont un peu différentes, quoi. Mais une des raisons pour lesquelles j'ai fait ce livre, c'est qu'évidemment, de plus en plus, on est racialisé comme musulman et en tant que tel, quoi. Et au vu de mon prénom, quoi, j'ai beaucoup eu des formes d'expériences subjectives dans lesquelles, en fait, on n'est pas forcément racialisé en tant que tel par rapport à la couleur de notre peau, etc. Et en fait, dès que des personnes apprenaient mon prénom, du coup, je voyais le changement, en fait, d'attitude, etc. C'est ça qui m'intéressait. Donc, je dirais que je me situe comme ça. Maintenant, qu'est-ce qu'il y a derrière le fait d'être racialisé comme musulman ou de se dire musulman? Ça, c'est une autre question. Est-ce que c'est culturel, religieux, etc.? Mais peut-être qu'on en parlera.
Et est-ce qu'il y a un moment dans ta vie, bon, effectivement, tu évoques ton prénom, mais est-ce qu'il y a un moment dans ta vie où tu as pris conscience, justement, de la manière dont on te percevait dans le contexte français ou ailleurs, d'ailleurs?
Ouais. D'ailleurs, ça a coïncidé avec le début du processus d'écriture.
D'accord.
Ouais.
Il y a eu un élément déclencheur particulier?
Non, c'est les débats qu'on connaît et le fait que j'ai été extrêmement surpris, en fait, de la possibilité qu'on ait ce type de débat. Du coup, à partir de 2004, 2005, il y avait vraiment une expérience de... Je sais pas si c'était une forme de déception, mais en tout cas une énorme surprise de la possibilité de dire un certain nombre de choses qui me paraissaient être complètement incompatibles avec ce que la France ou l'Europe prétendait être. Du type, ce type de récit que j'essaie d'analyser dans le livre, du type nous, l'Occident, nous avons sécularisé le christianisme, etc. L'islam confond la politique et la religion, etc. Ça me paraissait complètement délirant, en fait. Bon. Et en fait, je me suis rendu compte que c'était un discours qui, non seulement était tenu par un certain nombre d'idéologues, mais qui avait, en fait, une base dans la tradition philosophique. J'étais déjà étudiant en philosophie. Et je voyais un certain nombre de philosophes athées, justement. Et qui, malgré leur athéisme, disaient ce genre de choses-là. Je me suis rendu compte, après coup, qu'en fait, c'était deux faces de la même pièce, quoi. Mais voilà.
Et moi, je serais curieuse de te demander aussi... Depuis que tu es aux États-Unis, est-ce que tu es perçu différemment dans le contexte états-unien, qui est aussi donc membre de l'Occident? Ouais. Et très souvent, on entend dire que les Arabes étaient blancs aux États-Unis, ils ne seraient plus aujourd'hui. Est-ce que pour toi, ça a changé quelque chose? Bon, t'es allé après 2001, mais est-ce que par rapport à la France, ça t'a apporté une autre vision de toi-même?
Absolument. Mais je pense que j'ai pas une expérience suffisamment longue pour avoir une réponse absolument claire. New York, évidemment, est différent des autres contextes. Je dirais que là-bas, en fait, je me sens plus, en un sens, marginalisé en tant que Nord-Africain par rapport aux communautés dites arabes. Vous voyez, c'est un peu différent.
Donc les communautés arabes du Moyen-Orient, c'est ça?
Ouais, c'est
d'accord.
Ça. Et chercheurs aussi, parce que c'est aussi des collègues ou les personnes avec qui je suis en discussion, très souvent, viennent du Moyen-Orient. Mais, c'est ça qui est intéressant, ce qui nous relie, c'est justement le fait que, disons qu'avant 2001, il y avait encore cette espèce d'aspiration à être blanc, ou white passing, etc., comme on dit, bon... Et en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'ils ont perdu, si tu veux, ce privilège-là, parce que justement, ils ont été racialisés en tant que musulmans. Et en un sens, c'est ce que je leur dis souvent, je leur dis, mais voilà, vous êtes devenus des Algériens, quoi. C'est-à-dire, c'est quelque chose que nous, on vit depuis plusieurs siècles, en un sens, quoi.
Mais, mais aux États-Unis, avant les attentats du 11 septembre, effectivement, il n'y avait pas la perception nationale du groupe musulman,
ouais.
Même s'il est...
Et je voudrais juste ajouter quelque chose. J'avais eu cette discussion avec un ami à moi qui est franco-tunisien, qui habite là-bas, qui est un musicien assez connu d'ailleurs, et qui m'avait expliqué quelque chose, qui m'avait dit, mais tu sais, méfie-toi par rapport à l'islamophobie là-bas, on a l'impression que ça va mieux, mais en fait moi il m'est arrivé quelque chose, alors vraiment il est pas du tout musulman pour le coup lui, mais il regardait une vidéo avec où en fait la personne qui parlait était une femme voilée, etc. Et en fait il y a quelqu'un, qui d'ailleurs n'était pas blanc, qui s'est levé dans le métro et qui a commencé à lui dire, mais je vais te détruire, quoi. Et c'était vraiment la guerre, quoi. Bon.
Et ça, c'était juste après le 11 septembre?
Non, c'était pas juste après.
Ah ouais,
c'était...
d'accord, ok.
Comme quoi, c'est encore présent. Quoi.
D'accord, ok. Et ben, ça donne envie. Alors, ton livre, il propose une lecture totalement neuve, en tout cas dans le contexte français, de la laïcisation de la France et de la racialisation des populations colonisées. Est-ce que tu peux nous donner déjà des définitions? Il y a un terme que tu l'emploies, qui est le terme d'impérialité. Et tu parles aussi de sécularisation impériale. Alors, est-ce qu'on peut revenir sur les définitions, notamment de impérialité, et la différence qu'on peut faire entre sécularisation et laïcité?
Ouais. Alors, impérialité. En fait, si vous prenez l'exemple de la France, c'est assez simple, hein, l'impérialité. Ça veut d'abord dire le fait que l'État français est plus vieux que la République française et que l'État français s'est construit comme un État, laïque, aussi en tant qu'empire. Et là, empire signifie en gros l'héritage de Napoléon Bonaparte ou du bonapartisme, quoi. Et c'est simplement un rappel du fait que, évidemment, ça a d'autres sens dans d'autres pays européens, etc. Mais en France, ça veut vraiment dire ça, quoi. C'est-à-dire, la République n'est pas simplement hantée par le colonialisme, elle est hantée par cette forme d'empire qui, du coup, échoue tout le temps, mais qui, du coup, malgré le fait qu'il échoue, a toujours envie de se restaurer, quoi. Et en fait, c'est ça, l'espèce de cercle ou la dialectique, si tu veux, de l'impérialité. C'est toujours impossible. C'est devenu absolument impossible de faire un empire. Mais pourtant, on ne cesse de vouloir le refaire. Et l'idée, c'est de dire que la matrice de ce projet-là, elle est en un sens plus ancienne que le colonialisme, même si elle hante le colonialisme, quoi. Voilà.
Et la sécularisation, du coup, comment tu la distingues de la laïcisation de la France ?
La sécularisation ? Mm-hmm. C'est tout simplement que c'est un schème, c'est un ensemble de processus qui est plus vaste, quoi. Et si tu veux, la laïcisation, c'est la forme, la version française. Mais c'est une manière, en fait, d'intégrer ce qui se passe en France dans un schème plus vaste, en montrant que oui, il y a une spécificité française, mais c'est une spécificité que dans un contexte plus global, quoi. C'est contre cette espèce de nationalisme un peu épistémologique, entre guillemets, consiste à dire, oui, mais attention, la laïcité, c'est complètement différent. Et en fait, si on étudie un peu, par exemple, il y a énormément de pères fondateurs de la laïcité qui étaient très influencés par des auteurs allemands. Ce qui montre que l'idée du protestantisme comme la grande religion moderne, qui est quelque chose qui est beaucoup plus présent dans les sociétés anglo-saxonnes, anglophones, c'est quelque chose qui a eu une influence, en fait, sur la France. Voilà. Donc, en fait, cette espèce d'idée sur laquelle c'est absolument singulier et en partie faux, c'est voulait aussi déconstruire ça, si tu veux.
Et c'est vrai que ce terme laïcité, il n'est pas traduit. Enfin, en anglais, on dit sécularisation. Enfin, on dit séculaire, en fait. On dit le mot laïcité, la terminologie, c'est vraiment un terme qu'on utilise sous cette forme-là en France. Et on y attache plein d'idées de l'exception culturelle, enfin, française. Et dans ton livre, tu parles donc d'Occident qui se serait défini à travers la sécularisation du christianisme comme une sorte de modernité, en fait, que le christianisme aurait permis cette modernité, et là où d'autres religions, donc plus arriérées, je mets des guillemets, empêcheraient l'empêcheraient. Est-ce que tu peux nous dire comment est-ce que cette sécularisation, c'est une continuation du christianisme, en fait, de ce mouvement sous un masque non religieux aujourd'hui?
Alors, c'est pas exactement ce que je dis, alors en fait, ça c'est vraiment une question complexe. Alors, je pense que ce qui s'est passé, c'est que l'idée même du christianisme a été reconstruite et qu'elle a été culturalisée. Ce qui est pas du tout, ce qui n'a pas vraiment de sens d'un point de vue chrétien, si tu veux. Ce que je veux dire par là, c'est qu'il n'y avait aucune raison d'un point de vue chrétien, théologique, si tu veux, de dire le christianisme définit notre identité en tant qu'occidentaux et d'ailleurs aussi en tant que blancs. Et ça, c'est un processus, si tu veux, de culturalisation qui a eu lieu tardivement, peut-être au XVIIIe siècle, mais surtout au XIXe siècle. Et l'idée, c'est de dire qu'il n'était pas possible pour les Occidentaux de se réapproprier l'idée de christianisme comme étant quelque chose qui les définit en tant que tel, en tant qu'Occidentaux et en tant que modernes, sans avoir racialisé, justement, d'autres populations. Et dans ce cadre-là, ce qui a permis, si tu veux, la culturalisation du christianisme, l'idée sur laquelle le christianisme, c'est la religion de l'Occident, ça a été de dire... On n'est pas les mêmes que les Juifs et les Arabes, particulièrement. Et donc, l'idée, c'est de dire, évidemment, le racisme est le racisme, c'est-à-dire qu'il racialise la couleur de la peau avant tout, effectivement, mais dans ce cas bien précis, ce qui se passe, c'est autre chose, c'est qu'il y a une racialisation, effectivement, de la religion sur la base du fait de dire les Juifs, les Arabes, ils ont une religion qui est monothéiste, mais qui est fanatique, qui est trop monothéiste, c'est-à-dire que Dieu écrase l'homme. Et de l'autre côté, le christianisme, c'est cette religion qui, grâce à l'incarnation, justement, n'écrase pas l'homme et le libère, etc. Ce qui donne lieu, et ça c'est très 19e siècle, mais je pense que ça reste, et je dirais comment et pourquoi. L'idée très 19e siècle, c'est consiste à dire, le christianisme, ce qui est plus important à propos du christianisme, c'est pas tellement ce qu'il dit théologiquement, c'est ce qu'il a fait dans l'histoire. Et ce qu'il a fait dans l'histoire, c'est de nous permettre de prendre conscience de la valeur absolue de l'humanité, etc. Et de nous émanciper en donnant lieu à cette grande civilisation industrielle qu'est l'Occident et qui est tellement belle et forte, quoi. Bon. Et l'idée, c'est de, à mon avis, ce qui se passe, si tu veux, et c'est ça le sens du livre, d'un point de vue politique, c'est de dire, en fait, ces discours-là, précisément, se perpétuent très efficacement, parce qu'ils n'ont pas l'air d'être racistes, parce qu'ils racialisent précisément la religion, et que, en fait, ils ne parlent jamais de race, mais ils parlent justement de religion. Et parce qu'ils parlent de religion, ils ont l'air plus légitimes, et ils sont moins facilement critiquables, dans la mesure où ils font consensus entre, gros, une droite qui est très heureuse de dire que la civilisation occidentale est une civilisation chrétienne, ce qui en tant que tel n'est pas très chrétien, en fait, en vérité, qui est plus nationaliste qu'autre chose. Et de l'autre côté, une gauche, disons, laïciste, qui est très contente, elle, pour le coup, de dire « Ah, si on pouvait abandonner la religion, ça serait vraiment génial. » Donc avec cette idée selon laquelle critiquer la religion, c'est pas la même chose que critiquer la race, donc pas de problème, quoi. Voilà. Et du coup, c'est simplement une manière de dire, en fait, ces débats qu'on a encore aujourd'hui ont, en fait, malheureusement, une profondeur historique qui est liée, en fait, à l'héritage de ce qu'on vient de décrire, quoi. Voilà.
Justement, tu dis que la sécularisation de l'Occident est indissociable de la formation des empires coloniaux, et tu indiques que l'empire a trouvé sa légitimité universelle dans ce que tu dis ça fait écho à ce que tu dis à ce moment-là dans ce mouvement, c'est-à-dire qu'elle s'est posée comme portant des idées universalismes justement dans un mouvement d'expansion coloniale.
Oui, très clairement, ouais. Ça, je pense que ça a été dit par beaucoup de militants, chercheurs, etc. Et là, l'idée, c'est d'ajouter au fait, si tu veux, à la critique qu'on peut faire de l'universalisme, de dire oui, ok, mais quel universalisme et comment ça s'est effectivement formulé à cette période-là, c'est-à-dire au XIXe siècle. Et ce qui est intéressant, c'est de voir, en fait, et ça, c'est rarement vu, que tous les grands défenseurs de l'universalisme à ce moment-là avaient tous une perception selon laquelle les premières déclarations de l'universel étaient les monothéismes. Donc il y avait cette idée sur laquelle le christianisme était le grand inventeur de l'universalisme. Et donc, du coup, la République, c'était l'héritière du christianisme, mais à travers un universalisme vraiment universel, parce que laïque. Donc en gros, t'as une forme d'universalisme religieuse. Et cet universalisme religieux, il devient vraiment universel quand cette religion, en fait, se réalise justement à travers la laïcité, quoi. Et c'est quelque chose qu'on a un peu oublié parce que du coup, on se dit, ah oui, la laïcité, c'est l'inverse de la religion, etc., machin. Mais en fait, la manière dont ça a opéré était très différente, quoi. C'était plutôt l'idée selon laquelle, la modernité réalise le christianisme sur Terre, réalise effectivement la religion sur Terre. Donc, au lieu d'aller à l'église, faisons des œuvres industrielles. C'est ça, être un vrai chrétien, quoi. Et sans, en fait, ce passage, c'est ça vraiment la sécularisation en tant que telle. Si tu veux, la civilisation dans laquelle on vit ne serait pas née. En tout cas, elle n'aurait pas la même forme, si tu veux. Bon. Et je pense que le complexe de supériorité morale que s'attribue souvent l'Occident, qui se répète souvent, malgré le fait que parfois on critique le racisme, elle procède aussi de là, en fait, à mon sens. Et pour la question de l'universalisme, je pense que, si tu veux, cet aspect-là de ce qu'on appelle l'universalisme est rarement vu. Et si on prenait en compte cet aspect-là, on aurait probablement une autre critique de l'universalisme. Voilà. Donc c'est ça que j'essaie de penser, quoi.
Moi, il y a une partie du livre où je crois que mon cerveau il a vraiment fait des petites étincelles là quand tu parles de cette réalisation donc du christianisme à travers la sécularisation. Et en fait, ça résonne en cette phrase, tu sais, quand ils disent « Ah bah nous, le colonialisme, on a quand même fait des écoles et des hôpitaux, on a construit des routes chez vous. » Et en fait, c'est exactement ça qui réalise ce christianisme. C'est-à-dire que, et tu l'expliques dans ton livre, ils ne construisent pas donc des écoles et des hôpitaux et des actions caritatives pour faire du bien autour d'eux. Ils le font parce que à un moment, notamment vers 1850, tu expliques que pour maintenir l'ordre public face à ces colonisés qui sont construits comme étant des fanatiques, tu dis ce mot fanatique, c'est-à-dire que la religion les rend fanatiques et ils sont aussi, il y a d'autres termes que tu utilises comme inconvertibles, on y reviendra, sauvages, voilà, enfin, tout ce qu'on entend encore aujourd'hui, et c'est pour ça que ce mal est très profond. Il y a un changement et les gens se disent, on ne peut pas continuer à faire de la mission civilisatrice à des missionnaires qui sèment la religion, mais on va faire ça autrement, on va enseigner la langue française, parce que quand on instille la langue française, bah, leur cerveau change, puisqu'ils parlent maintenant une autre langue. On va aussi, comme tu dis, donc à travers l'industrie. Donc ça, c'est ce que, enfin, c'est les Saint-Simoniens, donc du comte de Saint-Simon. C'est un mouvement social qui devient une doctrine coloniale. Et donc tout ça, ça fait écho à ce que moi j'ai toujours su. Enfin, moi je suis une enfant de personnes qui sont nées en Indochine, mais c'est donc aussi l'application de. Enfin, ce sera l'extension de cette de ce qui est écrit en Algérie sous le nom du code de l'indigénat et qui sera exporté par ailleurs. Et donc c'est tout ça, ça se construit en fait sur le terrain. Et le point de départ de tout ça, c'est ce que tu expliques dans ton livre, c'est Napoléon. Et ça, c'est incroyable. Enfin. De lire Napoléon et l'islam, il y a une anecdote, enfin il y a quelque chose de fondateur en 1798 au cours de ce qu'on appelle l'expédition d'Égypte. Tu dis dans ton livre que en pleine révolution, la République française se lance dans un projet d'expédition en Égypte et parvenu sur les terres égyptiennes en 1798, le chef Napoléon Bonaparte déclare dites au peuple que nous sommes de vrais musulmans. N'est-ce pas nous qui avons détruit le pape qui disait qu'il fallait faire la guerre aux musulmans ? N'est-ce pas nous qui avons détruit les chevaliers de Malte parce que ces insensés croyaient que Dieu voulait qu'ils fissent la guerre aux musulmans ? Et donc la République, Napoléon, c'est à un moment proclamé musulman. Et ça semble comme un paradoxe, mais ça ne l'est pas. Est-ce que tu peux nous le dire ? Pourquoi ?
Ouais. Alors, mais en fait, si tu pars de l'idée même de mission, de civilisation, si tu regardes la construction de cette expression, en un sens, tout est dit. C'est une mission, donc il y a un héritage chrétien, mais l'idée, c'est pas une mission religieuse, c'est une mission de civilisation. Donc, en gros, ce à quoi on convertit, c'est à la civilisation. En un sens, tout est dit, là. Et donc, l'idée c'est de montrer qu'en fait, quand on parle de mission de civilisation, on se réfère à une modalité, à une forme de colonialisme qui naît au XIXe siècle. Et en un sens, le livre, dans son ensemble, consiste à analyser cette rupture, si tu veux, ou la nouveauté de ce type de colonialisme, par rapport au type de colonialisme qui dominait, si tu veux, avant. Il est industriel. Le lien, peut-être qu'on en parlera, avec la question climatique vient justement du fait qu'il est industriel, c'est-à-dire que c'est une forme de colonialisme qui va donner lieu progressivement, au fur et à mesure de hasard, hein, de multiplicité de contingences, donner lieu à une économie qu'on appelle fossile. Bon. Mais une des choses qui, à mon avis, est la plus importante, c'est justement le fait que, avant d'être industriel, il est aussi, justement, sécularisé, quoi. Et alors, du coup, la question, c'est de savoir... comment est-ce qu'on analyse les changements, si tu veux, en termes de rapport entre politique et religion? Comment on les analyse? C'est une question de méthode. La plupart des historiens vont te dire, on va regarder l'Europe, et on va regarder comment justement le christianisme se modifie, etc. Bref, ce qui se passe en Europe. Ce qui se passe à ce moment-là, c'est qu'on a une perspective complètement eurocentrique sur ce qui se passe. Et là, la question, méthodologiquement, ce qui m'a intéressé, c'est de dire, non, pour analyser ce qui se passe à ce moment-là, il faut regarder justement hors de l'Europe et voir ce qui se passe dans l'histoire coloniale, quoi. Bon. Et du coup, inévitablement, on tombe sur cette phrase de Napoléon parce qu'elle est non seulement absolument énorme, dans la mesure où elle est inattendue, mais elle dit justement quelque chose de beaucoup plus fort qu'une anecdote. Effectivement, nous sommes de vrais musulmans. Et après, comme tu l'as cité, ce qu'il dit, c'est au fond, nous sommes antichrétiens, donc nous sommes vos alliés. Donc il y a deux choses. Comment est-ce qu'il est possible qu'une république, parce qu'on est encore en république, c'est la première république en fait, la Révolution française, comment c'est possible que cette république, qui est vraiment, alors là pour le coup elle est quasiment anticléricale, il n'y a pas encore vraiment d'association avec l'église, etc. Bref, enfin plus ou moins, mais pas l'église de Rome. Bref, en tout cas, cet anticléricalisme donne lieu à la possibilité, au fond, de donner l'impression de se convertir à l'islam. Ce qui me paraît être une rupture, puisque du coup, en gros, on ne convertit plus au christianisme, on se convertit à l'islam pour convertir les musulmans à la modernité, quoi. Et c'est ce changement-là, en fait, qui n'est pas du tout un détail, puisqu'en fait, c'est quelque chose qui est marginalisé dans l'historiographie dominante, dans la manière dont on écrit l'histoire de manière, si tu veux, dominante, qui est une production idéologique. Et en fait, si, au lieu de le mettre à la marge, on le met au centre, qu'est-ce qu'on voit ? Et en un sens, ce qu'on voit, c'est ce que montre le livre. Alors, du coup, deuxième élément de réponse, l'idée, c'est de dire, effectivement, ce qui s'est passé en Égypte a échoué, en fait. A échoué. Et l'idée, c'est de dire, là, dans cet échec, il y a une matrice de ce qui a été mis en place à travers l'empire colonial français au XIXe siècle. Voilà. Donc c'est une matrice, c'est-à-dire c'est de là que ça part. Et en même temps, ce point de départ est toujours un peu un échec, quoi. C'est comme ça que j'analyse le colonialisme de façon générale. Il est hanté par un échec, en fait, constitutif, quoi. C'est une belle manière d'analyser sa violence, mais aussi de montrer à quel point il est mort par avance, quoi. Effectivement, c'est comme ça que j'analyse ce qui se passe en Algérie, c'est-à-dire j'essaie de voir comment s'est passé le processus de colonisation lui-même, pas juste l'état colonial, mais le processus, quoi. Comment ça s'est passé? Et effectivement, ce qui est intéressant, c'est de voir que on est dans un schéma très instable, qui est très différent du fait de dire, allons-y, on va tous les convertir au christianisme et tout va bien se passer. C'est très différent de ça. En fait, il y a un conflit interne entre l'État ou les administrateurs coloniaux eux-mêmes et les missions. Ça veut dire, en gros, que l'Église romaine voulait déployer en Algérie un projet de conversion massive, si tu veux. Et ça n'a pas marché. Et c'est cet échec-là, encore un autre échec, qui a en fait rendu, déterminé la manière dont on a colonisé l'Algérie. Et sur ce que tu dis sur l'ordre public, en gros, l'idée c'est de dire la chose suivante. Si cette population est d'abord et avant tout racialisée comme musulmane, alors il ne faut pas les convertir parce que dans ces cas-là, on va provoquer ce qui a du coup à ce moment-là appelé le fanatisme, quoi. Et en fait, ça va donner lieu à des insurrections qui vont faire en sorte que l'ordre colonial va être instable. Donc en fait, ce qui se passe, c'est qu'effectivement, il y a une forme de laïcisation de la manière dont fonctionne le pouvoir colonial, ne pas trop convertir, qui passe en fait par le fait de considérer cette laïcisation comme une technique de gouvernement plus efficace et plus stable. Voilà.
Et du coup, c'est un discours qui a un écho dans l'actualité, dans la manière dont on parle de l'islam. Je propose qu'on écoute un son à ce sujet.
Islam et la République, nouvelle déclaration de Manuel Valls sur la religion musulmane. Dans une interview à paraître demain dans le journal Libération, le Premier ministre estime qu'il faut encore démontrer que l'islam est fondamentalement compatible avec la République. Il estime qu'une majorité de Français en doute, mais qu'il est possible de donc démontrer que l'islam est compatible.
Alors c'est Manuel Valls justement qui explique que aujourd'hui il faut démontrer que l'islam est fondamentalement compatible avec la République, ce qui est assez comique quand on rappelle justement que la République a pu se proclamer musulmane à un moment. Mais est-ce que tu peux nous dire comment ce discours en fait est lié justement à la manière dont on a construit l'islam comme étant fondamentalement incompatible avec la République?
Ouais, alors justement, moi je dis souvent qu'en fait c'est la question qui est coloniale. Ce que je veux dire, c'est que c'est la question de savoir si l'islam est compatible ou non avec la République qui est coloniale. Donc les deux réponses sont, si tu veux, coloniales différemment, mais coloniales. C'est-à-dire, donc si tu veux, d'un point de vue historique, ça remonte à... c'est à peu près ça aussi, les années 1850, mais surtout vers 1860, pour donner un peu des éléments historiques, mais rapidement. En fait, ce qui s'est passé, c'est que ce débat a été inventé sur la compatibilité ou l'incompatibilité. Il a été inventé par rapport au fait de savoir ce qu'on allait faire des indigènes, notamment d'Algérie, mais il y a eu d'autres versions hein, de ce... Je ne vais pas simplement dire ça a eu lieu qu'en Algérie. Ça a eu lieu dans d'autres espaces coloniaux. Mais en revanche, ce qui s'est passé, c'est... Ok, on a des indigènes, donc je rappelle, un indigène, c'était... Un ou une indigène, c'était... Les gens à laquelle... c'était des nationaux, donc ils étaient français, mais non citoyens.
Bon.
Donc du coup, sujet. La question, c'était de savoir qu'est-ce qu'on fait de ces sujets. Est-ce qu'un jour ou l'autre, ils pourront devenir citoyens? Et ça, c'était un débat à l'intérieur de l'espace colonial entre, en gros, ceux que j'appellerais les impériaux, quoi. Donc, justement, les Saint-Simoniens, mais aussi des personnes, disons, plus libérales, qu'on appellerait de gauche peut-être aujourd'hui, quoi. Et de l'autre côté, les colons eux-mêmes. En anglais, on les appellerait les settlers, c'est-à-dire ceux qui habitent. Qui habitaient pour le coup en Algérie et qui sont devenus après les pieds noirs, justement, qui eux avaient une conception différente et qui plutôt prenaient l'idée sur laquelle non, c'est absolument incompatible, donc il faut qu'on détruise ces institutions. Le plus d'institutions indigènes peuvent être détruites, voilà, le mieux c'est, excusez-moi pour cet anglicisme étrange. C'est cette tension interne qu'il y a eu en gros entre les colons qui étaient sur place et l'administration coloniale elle-même, qui est vraiment un conflit très puissant, hein, et qui s'est répété entre en gros De Gaulle et les colons plus tard, etc. Et en fait, cette tension-là, Elle naît en Algérie et en gros, le camp des colons eux-mêmes dit c'est absolument incompatible et l'autre dit non, c'est incompatible, mais du coup, il va falloir les transformer d'une certaine manière pour qu'ils puissent devenir citoyens français. Et dans les deux cas, l'idée, c'est de dire que en tant que tel, les musulmans eux-mêmes et les musulmanes doivent être transformés plus ou moins radicalement pour pouvoir être dignes, en fait, d'être citoyens quoi, et citoyennes.
Avant qu'on reprenne notre discussion, je vous propose qu'on fasse une petite pause.
Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
Vous êtes toujours avec nous dans Kif Taras, on reprend la suite de l'émission.
Je voudrais revenir sur cette notion aussi de sur l'utilisation de la sécularisation pour comme un rouage de cette machine de soumission des peuples. C'est qu'aussi il y a ce paradoxe des musulmans catholiques. Donc ça prouve en fait que la racialisation opère et que ce n'est pas une question de religion mais une question de race. En fait, on est dans une situation où il y a des personnes des musulmans donc des indigènes qui se sont convertis au catholicisme et que même en faisant ils étaient considérés comme relevant des tribunaux de droit spécial d'Algérie. Exactement. Et donc c'est le tribunal d'Alger qui le dit, donc c'est un arrêt de droit hein, qui donc refuse à ces personnes la qualité d'être dans le droit commun en fait alors qu'ils se sont convertis. Et ça montre réellement que le débat qu'on a encore aujourd'hui sur la compatibilité c'est l'héritage de ça, c'est-à-dire qu'on est encore en train de se dire, même les gens quand ils se convertissent jamais on va y arriver parce que c'est pas qu'une question de compatibilité, c'est vraiment la preuve que même lorsque tu fais tout, c'est bien ça, cette double conscience dont on parle régulièrement, quand on parle de race, quand on parle de le fait que on est quand on fait pareil que les colons, et ben on est considéré pas comme un colon, mais quand on renie notre qui on est pour et ben on est toujours pas un colon. Enfin c'est la race en fait. On est avec et on meurt avec, et il y a aucune manière de le faire par religion, sauf à ce qu'on devienne des citoyens, et c'est là que la sécularisation opère pour les rapprocher en fait d'une certaine dignité. C'est ce que tu dis, il y a toujours un but à atteindre en fait pour être considéré, j'allais dire blanc, mais c'est ça quoi en fait.
Ouais, alors, oui, effectivement, musulman catholique, ça c'est assez drôle. C'est l'idée selon laquelle, comme tu disais, si tu te convertis au christianisme, tu sors pas de ton statut personnel. Donc là, ça rejoint, si tu veux, autre chose, et je pense j'aimerais bien insister là-dessus, même si parfois ça fait hurler, mais la vérité c'est que c'est justement ce qui s'est passé. C'est que les indigènes, on les définissait en Algérie en tout cas, par, justement je l'ai dit, par leur statut personnel. Et en fait, on dit très peu, et même des historiens de l'Algérie n'ont pas souvent insisté sur ce point, à quoi ça a renvoyé en fait, le statut personnel. C'est là tout le paradoxe en fait. Pourquoi ? Parce que, en fait, quand tu es assigné en tant qu'indigène à ce qu'on appelle le statut personnel, ou donc l'indigénat, évidemment tu es racialement assigné à une certaine place. Mais cette place c'est quoi ? Concrètement, institutionnellement. Et ben, dans le contexte colonial, c'était quoi ? C'était la codification de la charia. Ce qui est hyper bizarre, c'est-à-dire...
Donc la charia, c'est ce qu'on considère comme le droit musulman, mais toi, ce que tu dis, c'est qu'en fait, à la base, il n'y avait pas de droit musulman codifié tel quel. C'est-à-dire qu'il y avait des pratiques, mais en fait, pour pouvoir donner un statut personnel aux personnes indigènes, il a fallu codifier, mais selon les critères occidentaux, en fait. Voilà.
Avec le paradoxe qui est que l'État colonial français a appliqué la charia dans ses colonies.
Et il lui a même donné un statut juridique.
Exact.
Qu'elle n'avait pas.
Puisqu'effectivement, c'était un ensemble de pratiques. J'appelle ça éthico-juridique parce que même effectivement l'idée sur laquelle ça serait un droit au sens moderne du terme, ça va pas parce que ça fonctionnait pas comme ça. Donc oui, en fait, ce qui s'est passé, la France et ensuite d'autres empires coloniaux dans d'autres contextes ont effectivement appliqué le modèle du code civil, justement napoléonien. Et on transformait en fait le droit musulman justement en un code, et ils l'ont appliqué aux populations indigènes via souvent des institutions musulmanes plus ou moins contrôlées par les institutions coloniales, qui ont du coup appliqué ce droit-là aux civilisations, aux populations indigènes. Donc en fait, on voit que l'assignation, si tu veux, à un espace religieux, l'assignation fixe et identitaire, entre guillemets, un espace religieux, c'est justement la manière dont ce même État colonial a fonctionné, tout en disant « Ah, mais vous devez vous en émanciper ». Donc en fait, il fait exactement l'inverse de ce qu'il dit. Vous voyez ? Et c'est ça, en fait, qu'il faut vraiment remettre en cause pour essayer justement de sortir de du double mind, du coup qui nous est imposé, qui consiste en gros à dire si tu veux... À mon avis, ça se manifeste comme ça aujourd'hui. C'est-à-dire, quand tu es racialisé comme tel, soit tu dois effectivement montrer que tu fais allégeance à quel que soit... Alors ici, on appelle ça norme républicaine, norme moderne, libérale, etc. C'est-à-dire
montrer... en levant les yeux au ciel, juste pour que les gens comprennent de quoi on parle.
Montrer à quel point tu n'es pas vraiment musulman ou tu n'es pas trop pratiquant, etc., etc. Effectivement, je pense que c'est un processus qui est infini. Il faut aussi dire, je pense que c'est important, et peut-être des auditeurs, auditrices se retrouveront là-dedans, que les agressions islamophobes, moi en tout cas ça m'est déjà arrivé, et c'est arrivé à d'autres, passent parfois par le fait justement de personnes qui s'auto-attribuent une sorte de statut d'imam. J'explique. Tu bois un verre d'alcool ou je sais pas quoi, et il y a un type qui arrive et qui te dit... Prends ton verre et te dis non, mais pourquoi tu bois ça, toi? T'as pas à boire ça, toi?
Une personne qui n'est pas musulmane.
Bien sûr.
Donc mais on peut. C'est un peu ce qu'on. Excuse-moi, je t'interromps, mais c'est un peu ce qu'on entend par rapport au port du foulard. Où en fait, les gens qui débattent de la question du foulard expliquent que le port du foulard n'est pas une injonction coranique. Et donc expliquent aux femmes musulmanes qui portent le foulard que selon le Coran, qui n'a pas de valeur juridique en France, elles ne devraient pas porter le voile.
C'est le même procédé.
Ouais,
ouais, mais le simple fait de définir le voile comme un signe religieux. Ça va de soi, enfin les gens pensent que ça va de soi, mais en fait ça va pas de soi. Signe, parce que c'est un signe. Signe pour qui? Pas pour celle qui la porte, c'est sûr que non. Pour celui et celle qui la voit d'une certaine manière, oui, mais signe, c'est déjà une construction. Religieux, c'est pas sûr non plus. Qu'est-ce que ça veut dire déjà, religion? D'où ça vient ce terme? Ça va pas non plus de soi. Du coup, ce qui se passe, c'est que si tu dis ça, si tu dis si c'est effectivement religieux, tu lui attribues un statut, tu veux, islamique, qui est justement un débat, en fait, qui est en débat. Ce qui nous ramène à la phrase de Napoléon, là, on voit que ça a encore du sens. C'est, nous sommes de vrais musulmans, c'est-à-dire, on va, en fait, vous dire si c'est musulman ou pas, si c'est islamique ou pas, et en fait, en fonction, on va soit l'interdire, soit le permettre. Et en fait, c'est ça qui se passe. Et c'est complètement, a priori, en contradiction avec l'idée même de laïcité. Et pourtant, historiquement, c'est comme ça que ça a fonctionné. Mais ouais, il y a toujours cette espèce de procédure étrange, quoi.
Donc, tu dis que la sécularisation, ça n'a pas fait sortir la religion de nos vies, mais au contraire, ça en fait, a politisé la religion. Mmh. Et en fait, c'est un mode de contrôle des cultes. En fait, c'est là qu'on sont nés les cultes. Et aussi, tu dis quelque chose, tu vas plus loin, tu dis que la sécularisation de l'Empire a donné lieu à une forme inédite de racisme d'État. Attention, parce que racisme d'État, c'est une... En France, c'est une...
C'est polémique.
Donc, c'est un racisme qui n'investit pas la division schématique noir-blanc, mais qui définit un groupe racialisé comme musulman.
Ouais, c'est ça, effectivement. Et, mais là, quand je parle de racisme d'État, je parle de l'État colonial en Algérie.
Oui,
donc,
oui.
Donc voilà, après ici, la transposition immédiate en France, c'est un autre problème, ouais. Effectivement, j'ai dit ça, ouais.
Non, mais du coup, la question qui est intéressante, c'est que paradoxalement, alors qu'elle accompagne une période de laïcisation, la colonisation réifie la religion et augmente son importance dans l'identité des personnes qui sont colonisées. C'est-à-dire que le paradoxe, c'est que les musulmans, ils doivent rester musulmans pour pouvoir être des sujets de la colonisation. Est-ce que tu peux nous dire justement ce paradoxe où en fait on se dit que la laïcité est censée évacuer la religion de l'espace public et émanciper les citoyens de cette assignation religieuse, alors que dans ce même moment, la colonisation oblige les musulmans à être musulmans même s'ils sont catholiques, comme l'a dit Grace tout à l'heure.
Ouais, mais il suffit de voir ce qui se passe aujourd'hui, je pense. C'est-à-dire qu'en fait,
quand tu bois de l'alcool, on te dit faut pas en boire.
Ouais, voilà, ce genre de choses. Ou dans l'espace public, le fait qu'il y a une assignation à cette identité-là, alors même qu'on dit il faut absolument séparer la politique et la religion. Donc en fait, à force de faire de cette séparation une sorte de norme, on politise la religion, on parle de l'islam, etc., etc. Donc du coup, il y a une contradiction interne. Voilà, on est sans cesse renvoyé à quelque chose, alors même qu'on nous dit il faut absolument que vous vous en sépariez. Mais en fait, c'est ce dispositif lui-même qui crée la politisation de la religion de ce point de vue-là. En tout cas, qui en participe, clairement.
On n'a pas eu l'occasion d'en parler dans cet épisode, mais tu fais des liens très forts entre la sécularisation et la prédation qui sur la terre et donc des ressources, notamment du charbon, des énergies fossiles, qui causent aujourd'hui le réchauffement climatique. Et tu appelles cela le séculara. Pardon, je recommence. Tu appelles cela le sécularocène.
Ouais.
Voilà. Donc, par effet miroir de l'anthropocène et aussi le capitolocène. Moi, bon, je suis désolée, j'arrive pas trop à faire ces mots avec. J'ai l'impression de dire australopithèque à chaque fois. et donc voilà. Donc c'est la contribution de la sécularisation au capitalisme, la transformation de nos sociétés et à la stabilité écologique de nos terres. Bon, il faudrait un épisode entier pour le dire, mais est-ce que tu peux dire en quelques mots ce que ça veut dire?
Alors, l'idée, c'est qu'en fait, les processus dont on a parlé jusque-là, ils sont liés en fait à la mise en place d'une économie fossile, donc une économie capitaliste qui, mobilise les énergies fossiles et qui a besoin de ces énergies pour fonctionner, quoi. L'idée, c'est simplement que ça se passe au même moment. Et en fait, ce que j'avais trouvé étrange, si tu veux, c'est que on utilise souvent le terme de modernité et on dit la modernité c'est lié désormais à le fait qu'on sache que il y ait une crise climatique ou un dérèglement climatique. Bon, donc on dit modernité anthropocène, ça va ensemble. Mais ce qui est intéressant, c'est que si tu regardes beaucoup d'écrits de sciences humaines, etc., la modernité, elle est classiquement définie par le concept de sécularisation, c'est-à-dire en fait, on sait plus ou moins que quelle que soit la manière dont on définit sécularisation, si tu veux expliquer le monde moderne, tu sais qu'il y a eu une transformation des liens entre religion et politique, quoi, à un moment donné. Et j'ai trouvé ça hyper étrange qu'en fait, le lien entre cet aspect des rapports entre politique et religion et la question climatique n'ait pas été mis en place. Donc en gros, tu dis modernité égale anthropocène, mais modernité égale sécularisation. Donc qu'est-ce que ça veut dire, sécularisation égale anthropocène? Voilà. Et du coup, c'est pour ça que, surtout le chapitre 4, en fait, fait ce lien. Alors évidemment, c'est un peu difficile de tout tenir ensemble dans une émission, mais il y a un certain nombre de choses quoi qui d'un point de vue plus spécifique me paraissaient importantes. La première chose c'est dit dans le livre, il y a quelque chose qui se passe au niveau de la conception du monde mais aussi la conception des sous-sols eux-mêmes. Et ça c'est un des éléments qui m'avait fasciné en fait quand j'ai lu un certain nombre d'archives, notamment de choses qui se sont passées justement en Indochine. Puisqu'il faut rappeler que en Algérie, la France n'a pas vraiment trouvé suffisamment de charbon pour en faire l'objet d'une exploitation systématique. C'est après avec le gaz et le pétrole que les choses se sont gâtées de ce point de vue-là entre guillemets. Ce qui s'est passé, c'est que justement ça explique en partie la colonisation de française de l'Indochine, c'est que là, il y avait des ressources de charbon, justement. Donc, on voit bien qu'en fait, si on en reste à une analyse purement en termes de discours ou idéologique, etc., on n'explique pas vraiment comment ça se passe matériellement, concrètement.
Mais pourquoi ils ont été là-bas, en fait?
Ben oui. Et tout simplement, et ça, je veux dire, un enfant le saurait, pourquoi ça colonise? Parce qu'ils ont besoin d'énergie et ça s'est toujours pas arrêté, quoi. Et donc, ouais, je disais, il y a un changement de rapport au sous-sol, et peut-être on peut s'arrêter là. Ça m'avait fasciné, cette affaire, c'est que avant, on avait vraiment une conception du sous-sol et donc des mines, quoi, complètement différente. C'est-à-dire qu'il y avait cette idée sur laquelle c'était habité, en fait, par d'autres forces que nous-mêmes. Et il y a quelque chose, et d'ailleurs, il y a des endroits encore de cette planète où on conçoit encore les choses comme ça, quoi, justement. Où on a une forme d'interaction avec l'environnement, où on sent bien qu'on n'est pas maître de cet environnement. On compose avec des forces non humaines, quoi. Et en fait, c'était intéressant de voir qu'au fur et à mesure, justement, à la fin du XVIIIe siècle et après au fur et à mesure du XIXe siècle, il a fallu supprimer cette perception-là pour pouvoir y descendre et justement l'exploiter, quoi, ce sous-sol. Ça va de pair aussi avec le fait que cet État dont on a parlé avec au moment de Bonapartisme, etc., ce qui met en place au moment où il y a cette forme de sécularisation qui arrive, c'est précisément une appropriation publique des sous-sols. Et donc, d'où le titre du livre, Des empires sous la terre, puisque l'idée, c'est de dire ce qui se passe réellement ou sous nos pieds, entre guillemets, quand il y a cette sécularisation qui se passe, donc vouloir faire descendre le ciel sur terre, c'est qu'il y a une transformation, en fait, du rapport effectif à la terre elle-même et au sous-sol lui-même. Donc, une nouvelle forme de souveraineté, si tu veux, quoi.
Ben merci beaucoup pour ça. C'est vrai que ça mériterait un développement beaucoup plus important. Et dans ton livre, de toutes les façons qu'on recommande, il a la possibilité justement de creuser sur ce sujet de la manière dont les questions climatiques actuelles sont liées à une perception différente de la possibilité pour l'État de s'approprier la Terre. Donc, on est à la fin, malheureusement, de ce numéro de Kif Taras avec Mohamed Amer Meziane, auteur du livre « Des empires sous la Terre, histoire écologique et raciale de la sécularisation » qui a été publié aux éditions La Découverte.
N'hésitez pas à nous faire part de vos opinions sur l'échange que nous venons de mener. Si vous avez des commentaires, des questions, si vous êtes d'accord ou pas avec Mohamed. N'hésitez pas, écrivez-nous à kiftaras@binge.audio. Contactez-nous sur les réseaux sociaux Facebook, Instagram, Twitter avec le @kiftaras ou le hashtag Kif Taras.
Kif Taras est un podcast produit par Binge Audio. Aujourd'hui, la prise de son est effectuée par Quentin Bresson et la réalisation par Thomas Chalvidal.
Merci à Naomi Titi pour la production et l'édition et merci à Jeanne Longhini et Lise Niederkorn pour la communication et la présence sur les réseaux sociaux.
On se retrouve dans 15 jours pour une nouvelle plongée dans les questions raciales. Merci Grace.
Merci Rokhaya.
Merci Mohamed.
Merci à vous.
Hi, this is Craig Robinson from Ways to Win, and support for this podcast comes from Invesco QQQ, the official ETF of the NCAA. The future isn't scary, not realizing its potential, however, could be. Just like on the recruiting trail, I've seen potential come in many forms as a coach. Learn more at Invesco.com/QQQ. Let's rethink possibility. Invesco Distributors, Inc.